valeur HI203 et 209, initiation à l'histoire du Moyen-Âge. 11e cassette, première phase présentée par Monsieur Neveu.
Le Parlement d'Angleterre au XIVe siècle, commentaire de texte. Je commence par la présentation. La nature du texte, il s'agit d'un libelle, dont le titre latin est Modus Tenendi Parlamentum. Il comprend 25 articles, souvent longs. Cet écrit se présente de manière neutre. C'est un texte constitutionnel, entre guillemets. Il s'agit de la manière dont on doit tenir le Parlement. Mais en fait, il s'agit de critiquer la façon dont se tiennent les parlements. L'auteur est anonyme. Quant à la datation, nous avons des indications dans le texte. On nous dit que sous Édouard le Confesseur, 1042-1066, le Parlement était tenu de cette façon et que ceci a été approuvé par Guillaume le Conquérant, 1066-1087. Ce sont évidemment des patronages prestigieux et incontestables. Mais en réalité, le Parlement décrit par le texte n'a rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Il s'agit, selon toute probabilité, d'un texte du début du XIVe siècle, rédigé sous le règne d'Édouard II, 1307-1327. Il est sans doute à mettre en relation avec les conflits entre roi et parlement qui marquent ce règne et dont le paroxysme date de 1322. C'est même la date la plus probable. Quelles sont donc les circonstances ? Édouard II est un roi faible qui entre vite en conflit avec les barons. Dès 1311, c'est le début de la crise, le Parlement impose des ordonnances de réforme. En 1312, le roi se réfugie dans le nord, mais il entre en guerre contre l'Écosse et est battu à Bannockburn en 1314. En 1318, il y a deux gouvernements. À Londres, Thomas de Lancastre, principal baron, et dans le nord, le roi lui-même. En 1319, le roi conclut une trêve avec l'Écosse et gouverne avec ses favoris, Hugh Despenser, père et fils. En 1321, c'est la réaction des barons, mais le roi remporte la victoire sur eux à Boroughbridge et fait exécuter Lancastre. En 1322, enfin, le roi annule les ordonnances de 1311. C'est le Parlement d'York. Le roi y reconnaît la spécificité des communes contre les barons. Le sujet du texte est donc la description du fonctionnement que doit avoir le Parlement. Convocation, délibération, jour et heure de tenue, hiérarchie au sein de l'Assemblée. Ce texte exprime sans aucun doute le point de vue des barons. Je passe maintenant à l'analyse. Voici mon plan. Premièrement, le Parlement reflet de la société. Deuxièmement, le fonctionnement concret du Parlement. Troisièmement, Parlement idéal et Parlement réel. Premièrement donc, le Parlement reflet de la société. Le Parlement reflète la communauté du royaume, ligne 57-58. Le Parlement est soumis à une stricte hiérarchie, voire l'ordre de convocation, paragraphe 1 à 6. Les degrés de cette hiérarchie sont explicités au paragraphe 12. Les degrés des pairs. Tous sont qualifiés de pairs car ils représentent la communauté du royaume. Mais il y a un autre sens du mot pair, les barons et leurs pairs, ligne 26. Voyons donc les différents degrés. Premier degré, le roi qui n'a pas de pair. Le pouvoir royal est ainsi affirmé. En effet, c'est le roi qui préside le Parlement. Il est tenu d'être présent, ligne 67. Il est la tête, c'est l'image du corps, voire le corps mystique dans la religion chrétienne. Il est la tête de la communauté. Les autres degrés sont donc les membres. Il est le principe, le premier. Le Parlement procède du roi. Son autorité vient de lui. Mais dans le contexte des années 1320, c'est à nuancer. Certains barons, affirment leur fidélité à la couronne, mais non à la personne du roi. Il est également la fin. Les FIN, les décisions du Parlement seront appliquées par le roi. Il y tient donc le pouvoir exécutif. Deuxième degré, le haut clergé. Ligne 73 et aussi ligne 9 et 10. Le clergé, en tant qu'ordre, a primauté sur les laïcs. Les archevêques de Canterbury et d'York, les évêques, 21 à cette époque, la plupart suffragants de Canterbury, les abbés et les prieurs, surtout bénédictins et cisterciens. Ils tiennent du roi une baronnie. Ce sont des tenants en chef, des vassaux directs du roi. Le troisième degré est constitué par les procureurs de clergé. Le bas clergé n'est pas convoqué directement au Parlement. Il y a des représentants nommés par le haut clergé, deux procureurs pour chaque archidiaconie. Dans la réalité, le bas clergé ne constitue pas véritablement un troisième degré. Le quatrième degré, c'est la haute noblesse, voire ligne 74-76 et aussi ligne 25-34. Il est à mettre sur le même plan hiérarchiquement que le haut clergé. Il y a d'abord les comtes. Il ne faut pas confondre deux types de comtés, les earldoms et les shires, lignes 27 et 40. Le shire est une circonscription territoriale et l'earldom, avant Guillaume et après Guillaume, représente de vastes territoires. Cependant, au début du XIVe siècle, certains grands ont reconstitué de ces comtés, de ces earldoms considérables, notamment la famille de Lancastre. Dans le texte, on parle de comté à partir d'un certain nombre de fiefs, 20 fiefs. Ensuite, vous avez les baronnies qui sont comptées pour 13 fiefs et demi, d'un revenu de 400 marcs. La marque étant une mesure de poids servant à mesurer les métaux précieux, or et argent. Ces chiffres ne sont pas choisis au hasard. Ils tiennent compte de la fixation du taux du relief, c'est-à-dire des droits de succession, par Édouard Ier en 1297. Autres membres de la haute noblesse, les grands, les magnats. La hiérarchie nobiliaire doit donc être fixée en fonction des revenus fonciers. Cinquième degré, les chevaliers des shires. Les shires au comté, dès le milieu du Xe siècle, on en compte une trentaine, et au début du XIVe siècle, une quarantaine. Ils sont subdivisés en centaines, en anglais hundreds. À la fin du XIIIe siècle, il y a 628 centaines dans le royaume. Le comté est dominé par la personnalité d'un officier royal, le Shire Reeve, c'est-à-dire le shérif, ligne 38 dans le texte. Au XIe, XIIe, c'est un personnage tout à fait considérable. Mais à partir du XIIIe siècle, il y a une diminution considérable de ses attributions au profit des barons. Il y a deux chevaliers par comté, choisis par le shérif pour leur compétence et leur honnêteté, ligne 39-40. Sixième degré, les habitants des cités et des bourgs. Il faut distinguer la cité, civitas en latin, c'est-à-dire la ville épiscopale. Les habitants sont des cives, c'est-à-dire citoyens, et les bourgs, boroughs en anglais, les simples bourgs dont les habitants sont des bourgenses, bourgeois en français. Ces représentants des villes représentent le troisième ordre. Ce sont les notables des villes choisis par leurs pairs. Les cités comprenant une municipalité, Londres, York, sont représentées par les maires et shérifs ou maires et baillis. En français, on dirait échevins. Les appellations sont variables, mais partout c'est la même réalité. Notons qu'il n'y a aucun représentant des classes populaires, ni artisans des villes, ni paysans. Seuls les notables sont représentés. Le rôle de la fortune est considérable dans le choix des représentants. C'est le cas dans la plupart des systèmes représentatifs en Occident à cette époque. Compte tenu de ces réserves, le Parlement est bien le reflet de la réalité sociale. Le modus nous précise encore comment ces représentants de la communauté du royaume vont agir concrètement pour exercer leur pouvoir délégué. C'est donc la deuxième partie, le fonctionnement concret du Parlement. Je rappelle, théoriquement, il s'agit du fonctionnement tel qu'il existait sous Édouard le Confesseur, pratiquement du fonctionnement sous Édouard II. Ou plutôt qu'il devrait exister sous Édouard II. Voyons ce qui concerne la semonce du Parlement, ligne 6 à 50. La semonce, de l'ancien français saumondre, ça signifie la convocation, l'ordre de comparution. Ceux qui doivent être semonce, c'est-à-dire convoqués, doivent être différentes catégories de personnes. D'abord, ceux qui doivent venir en raison de leur tenure. Vous avez le haut clergé, archevêque, évêque, abbé, prieur, la haute noblesse, comte et baron. Chacun reçoit un bref, brevet en latin, writ en anglais, en ancien français, mandement. Ensuite, ceux qui sont choisis pour représenter un corps par les autorités. Vous avez le bas clergé, aucun membre ne doit être convoqué directement, ligne 11. Mais sont convoqués également les évêques et les abbés et autres personnes exemptes. Que veut dire exemption, ligne 19? Il y a deux sens à ce mot. D'abord, les monastères échappant à l'autorité de l'ordinaire, et d'autre part, les seigneurs ecclésiastiques échappant à l'autorité du shérif et relevant directement du roi, ceux qui jouissent d'une franchise. Ici, le mot semble appliqué de façon générique à toutes les autorités ecclésiastiques, séculières, évêques doyens, ou régulières, abbés prieurs. Il y a le choix de deux personnes par archidiaconé, subdivision de l'évêché, et par doyenné, subdivision de l'archidiaconé. Il y a donc un certain flou dans le texte. Ensuite sont convoqués les barons des cinq ports, qui sont Sandwich, Douvres, Ith, Romney et Hastings. Ils sont nommés par le gardien des cinq ports, représentant du roi. Sont convoqués également les chevaliers des comtés, nommés par le shérif. Ensuite, ceux qui sont choisis par leur communauté, les habitants des cités, choisis par les municipalités, les habitants des bourgs, choisis parmi et pour eux. De tous ces représentants, sont exigées les mêmes qualités. Ils doivent être compétents, notamment sur le plan juridique, convenables, autrement dit des gens qui connaissent les bonnes manières et savent se tenir correctement devant le roi, enfin honnêtes, pour éviter bien entendu la corruption, qui sera l'un des maux du Parlement plus tard. Le délai de convocation est de 40 jours, lignes 6 et 7, c'est-à-dire le temps d'élire les représentants et de venir de tous les coins du royaume. Les jours et heures du Parlement, maintenant, paragraphe 11. Le Parlement ne doit pas être tenu le dimanche, mais il peut être tenu les jours de fête, sauf trois grandes fêtes, la Toussaint, 1er novembre, le jour des morts, 2 novembre, et la Nativité de Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Ce sont les fêtes les plus populaires, soit fête des morts pour les deux premières, soit fête de l'été pour la troisième. Le Parlement commence au milieu de l'heure de prime. Prime, c'est l'heure du lever du soleil, ligne 66. Plutôt encore les jours de fête, l'heure de prime. Il faut donc compter le temps du service divin dans la matinée pour le roi et les membres du Parlement. Notons que le roi est tenu d'être présent, donc pas de Parlement sans le roi qui en est la tête. Tous les pairs du royaume sont convoqués. On a vu tout à l'heure les deux sens du mot. Les comtes et barons et leurs pairs, ligne 26, c'est-à-dire les grands. On dirait aujourd'hui les lords. Mais le mot est employé aussi pour tous les représentants de la communauté du royaume. Paragraphe 12, ligne 71. Ce n'est pas le sens qui nous intéresse ici. Quel est l'ordre des délibérations? Paragraphe 10. Tout est prévu dans le détail. Fixation d'abord d'un calendrier qu'il faudra respecter. D'abord, la guerre, la première préoccupation. Le Parlement doit délibérer de la guerre. L'idée, c'est que le roi féodal, ne doit pas faire la guerre sans l'accord de ses principaux vassaux. Le roi souverain ne doit pas faire la guerre sans l'accord de ses sujets. Sous-entendu, le Parlement accorde les subsides nécessaires à la guerre. Ceci va très loin. Il s'agit d'un véritable pouvoir politique. Dans la pratique, ça n'est pas toujours le cas sous Édouard Ier et Édouard II. Nous en reparlerons plus loin. Les affaires ensuite touchant la personne du roi, de la reine et de leurs enfants. Le Parlement s'arroge donc un droit de contrôle sur les actions du roi et de la famille royale. Ensuite, deuxième rubrique, les affaires de la communauté du royaume, ligne 57-58. Ce sont d'abord les lois. Le Parlement doit donc disposer du pouvoir législatif. C'est une très importante limitation du pouvoir royal. Il est question des lois originales, c'est-à-dire des lois anciennes. Nous avons ici l'idée de loi fondamentale. N'oublions pas qu'au Moyen-Âge, l'idéal se trouve dans le passé. Cependant, ces lois ne sont pas parfaites. On peut remédier à leur manque. Il y a donc l'idée d'une évolution de la loi. Il y a deux catégories de lois, les lois exécutives, qu'on pourrait rattacher au droit public, constitutionnel, administratif, définition de règles valables pour tous, et les lois judiciaires, qu'on peut rattacher au droit pénal ou criminel, définition des peines encourues par les criminels, vu quelque peu théorique en réalité, puisque l'Angleterre vit selon le régime du droit coutumier. Dans la pratique, le Parlement peut promulguer des statuts ayant force de loi. Cependant, il ne doit pas seulement édicter ou modifier des lois judiciaires, il peut les appliquer. On en arrive donc au jugement, ligne 59. Le Parlement est également un organisme judiciaire. Il rend la justice concernant les affaires communes par excellence. C'est considéré comme l'un de ses rôles essentiels. Or, ce rôle judiciaire, encore en vigueur au début du XIVe, ne va cesser de décliner ensuite, sauf pour les hauts barons, contrairement à ce qui se passe avec le Parlement français. Troisième type d'affaires, les affaires criminelles, lignes 51-54 et 60-62. Il y a des pétitions émanant des membres du Parlement. Le texte insiste bien sur le fait que les pétitions doivent être traitées selon l'ordre mis à la file, ligne 61, sans égard aux personnes, ligne 53, ce qui laisse supposer que ce n'était pas toujours le cas dans la réalité, les grands se faisant entendre plus facilement que les personnages plus modestes, clercs ou laïcs. Le modus nous donne donc beaucoup de renseignements concrets sur le fonctionnement du Parlement au début du XIVe. Cette vision correspond-elle à la réalité? Ou bien s'agit-il d'une vision idéale, n'ayant que peu de rapport avec ce qui se passe dans la pratique? C'est ce que nous allons tenter de rechercher au cours de la troisième partie. Troisième partie donc, Parlement idéal et Parlement réel. L'impression générale qui ressort de ce texte est qu'il s'agit d'un écrit partisan. Sous des apparences neutres, l'auteur prend parti dans le conflit qui oppose, au début du XIVe siècle, le roi Édouard II et les barons. Le roi est exalté au plan des principes, la tête, le principe, la fin du Parlement, en ligne 71. Mais il s'agit plus de la fonction que de la personne du roi. En réalité, l'auteur du texte essaye de toutes les façons de limiter le pouvoir royal. Par le délai de convocation, le texte suggère un délai de 40 jours. Dans la pratique, souvent, les délais sont plus brefs. Le nombre des représentants convoqués. Le texte s'efforce de préciser exactement le nombre de ces représentants. Tous les grands doivent être convoqués. En ce qui concerne les archevêques et évêques, ils ne tiennent pas en comté ni en baronnie. C'est une erreur du modus. Mais ils sont bien toujours convoqués par le roi. Cependant, il y a un grand flottement en ce qui concerne le clergé régulier. Par exemple, en 1295, au Parlement modèle, ils sont 70. En 1307, au Parlement de Carlisle, ils sont 48. Et en 1324, ils ne sont que 32. Quant au bas clergé, le texte est un peu confus. Voyons les lignes 20 à 23. En vertu de ses semences, il devait faire choisir pour chaque doyenné et archidiaconé d'Angleterre, dans les doyennés et archidiaconés eux-mêmes, deux procureurs de leur propre archidiaconé compétents et convenables pour venir et assister au Parlement. On peut interpréter cette phrase de deux façons. Deux procureurs par archidiaconé ou bien deux procureurs par doyenné. Dans ce dernier cas, cela ferait 700 procureurs du clergé. En pratique, évidemment, le roi convoquait généralement les évêques en leur demandant d'amener avec eux le doyen aux prières de chapitre cathédral, les archidiacres, un procureur de chapitre et deux procureurs du clergé diocésain. Au total, environ 140 personnes. Vous voyez qu'on est loin des 700. Autre exemple, les représentants des cinq ports ne sont convoqués ni en 1329 ni en 1330. L'auteur du texte s'efforce donc d'augmenter la représentativité du Parlement, en particulier en ce qui concerne le clergé. Peut-être est-il lui-même un clerc. Il voudrait limiter la liberté de choix du roi, alors que dans les faits, les rois s'efforcent bien entendu d'agir à leur guise. Autre cas intéressant, celui des officiers royaux. Le texte n'en souffle pas mot. Cependant, il réserve la possibilité pour le roi de convoquer des personnes qui ne seraient pas membres de droit du Parlement, pas représentants élus. Ligne 11 est suivante. Aucun membre du bas clergé, sauf s'il est du conseil du roi. Ligne 30-31. Aucun laïc d'un rang inférieur, sauf si sa présence est utile. Dans ce cas, le roi doit payer les coûts et dépenses. Sous-entendu, les grands doivent payer eux-mêmes leurs dépenses, en raison de leur tenir. Ces dispositions semblent viser les officiers royaux, qui assistent de fait aux séances du Parlement. Il y a notamment deux justiciers, les barons de l'échiquier, le chancelier, le trésorier, le garde du sceau privé. Pour l'auteur, ils ne doivent pas assister au Parlement, sinon à titre exceptionnel. Il y a donc, là encore, une volonté manifeste de limiter le pouvoir royal. L'auteur du modus nous présente donc un Parlement idéal, où la population serait mieux représentée, où le roi jouerait un rôle moins important. Il est donc plutôt dans le camp opposé à celui du roi, c'est-à-dire dans le camp des barons. Plusieurs indices le laisse supposer, et en particulier sa conception de la hiérarchie sociale. Parlons maintenant des lords et des communes. Au début du XIVe siècle, nous sommes à l'époque où le Parlement anglais se subdivise en deux chambres. Cette disposition est officiellement reconnue par les statuts d'York en 1322. Or, l'auteur n'y fait aucune allusion. Au contraire, il nous présente ces six degrés hiérarchique en mélangeant lord et commune. Degrés 2 et 3, haut et bas clergé. Degrés 4, 5 et 6, laïcs, des grands aux bourgeois. Cependant, il n'est pas favorable à un mélange entre les membres des différents degrés. Ligne 11, aucun membre du bas clergé avec le haut clergé. Ligne 30, aucun laïc de rang inférieur avec les barons. Il est facile de classer autrement les degrés. 2 et 4, ce sont les lords. 3, 5 et 6, ce sont les communes. On comprend donc clairement le point de vue de l'auteur. Il défend le point de vue des barons, qui ne tiennent pas à une séparation aux deux chambres. Ils préfèrent dominer une chambre unique. C'est en partie contre eux que le roi accorde en 1322 la reconnaissance d'une chambre des communes adjointe à celle des lords. Cependant, ses pouvoirs sont réduits. Elle peut seulement présenter des pétitions aux lords. Ce sont les lords qui délibèrent. Conclusion. Ce texte est un document célèbre de l'histoire constitutionnelle anglaise. Il nous apporte des renseignements précis, non pas sur des parlements mythiques du XIe siècle, mais sur des parlements concrets du début XIVe. en ce qui concerne la convocation, les modalités pratiques, le contenu des parlements. Le parlement est une image générale de la société. Cependant, il s'agit d'une image extrêmement partiale, malgré des apparences neutres. Ce texte se situe dans le cadre du conflit aigu opposant le roi Édouard II et les barons dans les années 1322. Il défend, sans le dire, le point de vue des barons, limitation du pouvoir royal, meilleure représentativité du Parlement, mais aussi meilleure définition des membres de droit et exclusion de ceux qui ne sont pas assez puissants ou pas assez riches. Enfin, prise de position implicite contre l'officialisation d'une Chambre des communes. Ce texte marque donc une étape importante dans l'évolution des institutions anglaises. Il tente de promouvoir une limitation du pouvoir royal. Dans l'immédiat, l'auteur ne sera pas suivi puisque les communes sont reconnues en 1322. Cependant, tout au long du XIVe siècle, le Parlement jouera un rôle important et s'opposera très fréquemment au roi. Exemple, sous Édouard III, en 1337-1340, sous Richard II, etc. L'évolution au cours des XIVe et XVe siècles ira dans le sens désiré par l'auteur du texte. Le rôle des lords ira croissant et le rôle des communes ira diminuant. En fait, seule l'aristocratie pourra s'opposer efficacement au pouvoir royal. Telle est la leçon que nous pouvons retenir du texte.